Salut Daniel, salut tous les OMG, c'est génial, je suis dans Paris en vélo, il fait beau, c'est génial. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, je suis un vrai délinquant, je roule sur les trottoirs, je grille les feux rouges, je m'éclate, là, j'ai 15 bornes à faire pour aller au boulot, et c'est le bonheur, le bonheur. Alors je voudrais quand même remercier Sarko, parce que grâce à lui, c'est une vraie machine à remonter le temps, parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver mes 15 ans, et en plus c'est grève, moi ça me fait penser en 95, parce qu'en 95, en novembre, le 27 novembre, j'ai un Benjamin qui est né, je suis devenu papa ce jour-là. Et je suis venu le papa en plein dans les grèves. Alors, c'était le bordel, je m'étais 4 heures à aller au boulot. J'entrais le soir, j'allais voir ma femme et mon nouveau petit bébé qui venait de naître. J'allais m'occuper de ma femme parce qu'il n'y avait pas d'infirmière, c'était tout. Et voilà, et aujourd'hui il a 12 ans, ce petit bonhomme. Il va avoir 12 ans et il est beau comme David Bowie, il joue de la guitare électrique comme Hendrix. Ouais, normal, il est le même jour que lui, le 27 novembre. Donc je voulais remercier Sarko pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est génial. Et ce soir, je vais me brouiller de rentrer pour regarder le 20h, il y aura Léon Zitrone. Et peut-être qu'avant, il y aura Bonny les petits. Et dimanche, il y aura peut-être l'Orient Coin sur France Inter. Allez, vive Sarko et vive le progrès. Ciao.
Bonjour, je voudrais réagir à ce monsieur qui vient de téléphoner en parlant du Villa Patron, encore une fois, qui maintenant magouille pour ne pas payer de charges sur leurs heures supplémentaires. Mais ce monsieur, il n'a pas dit ce qu'il faisait. Pourquoi il n'est pas patron, lui, puisque c'est si facile d'être patron? Il en a plein la bouche quand il parle des patrons, mais je ne comprends pas, c'est un imbécile, et je reste poli, je pense autrement. Il devrait se mettre patron, puisque c'est si facile. Franchement, j'arrive pas à saisir. Et d'autre part, tous ces chers étudiants qui vont manifester, qui sont pas contents de leur sort, eh bien, je voudrais qu'on ait un peu plus de poigne à leur encontre et qu'on vire immédiatement tous ceux qui font obstruction au règlement. C'est simple et pas compliqué. Ils sont pour l'instant payés par nous, par les contribuables, alors ils n'ont pas leur mot à dire. Voilà. On manque vraiment de fermeté, même si certains trouvent que Nicolas Sarkozy est trop ceci, trop cela, moi je trouve qu'il n'est pas assez. Voilà. Point barre.
Salut Daniel, c'est Christine de Chambéry. Eh bien, écoute, je t'informe que la ministre de la désertification judiciaire, je nomme Madame Dati, a décidé de boycotter la cour d'appel de Chambéry. Tu sais, elle fait la tournée dans le cadre de la carte judiciaire. Et elle, elle sera à Lyon vendredi pour faire l'annonce de toutes les suppressions de tribunaux d'instance et de prud'hommes. Et Dieu sait s'il y en a. On parle de entre 60 et 80 suppressions de prud'hommes. Et puis entre 100 et 200 suppressions de tribunaux d'instance, sans parler des tribunaux de grande instance. Donc elle sera vendredi matin à Lyon, au lieu d'être à Chambéry. Elle sera à l'École nationale du Trésor public, dans le premier arrondissement, 21 montée de la Butte. Et bien sûr, nous l'y attendons de pied ferme, évidemment, à partir de 11h. Alors pour autant, la manif qui était prévue à Chambéry vendredi matin, où elle devait passer, eh bien elle est maintenue. Elle est maintenue parce que devant le palais de justice, eh bien, il s'agit de montrer que tous les tribunaux qui vont être supprimés dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Annecy et de Grenoble, eh bien, c'est insupportable. C'est une atteinte à la proximité de la justice et on maintient donc la manifestation prévue à Chambéry devant le palais de justice à 10h. Elle est organisée par l'intersyndicale de la justice. La CGT des cheminots rejoindra la manifestation. Bien sûr, les magistrats y seront, les avocats aussi. Et nous dirons tous non au dati diktat et à cette désertification judiciaire qui est annoncée pour les prochains mois. Allez, merci Daniel pour tes émissions. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Pascal là, de Bretagne. Je téléphonais suite à l'émission que j'ai pu écouter ce matin sur France Inter. J'étais un petit peu étonné d'entendre ces discours anti-grève. Moi, je dirais juste une chose. Si les gens se posaient un peu plus de questions sur les profits que se font les entreprises, au lieu de reverser ces profits aux actionnaires ou aux fonds de pension, si on ne pouvait pas reverser ça plutôt dans des caisses de retraite et mettre plutôt une retraite vers le haut, c'est-à-dire 37 annuités et demie, au lieu de 40 pour tout le monde. Ceux qui ont envie de travailler plus et de se crever au boulot, ça c'est leur problème. Mais quand on a eu un travail physique qui a duré pas mal de temps, où on est bien abîmé, je pense que les 37 annuités et demie seraient largement suffisants. Voilà. Merci Daniel Mermet, tes émissions continuées, c'est très intéressant. Merci, au revoir.
Ouais, alors là, Daniel, vraiment, je réagis à chaud, hein. Je viens d'écouter ton émission comme je le fais régulièrement. Je suis vraiment outré par les propos de ces gens là qui défilent pour la droite, l'UMP. qui parle de droite décomplexée, et très sincèrement, quand je vois le pédigré entre guillemets de ces gens-là, certains s'expriment et disent être ingénieur en informatique, ça suppose un minimum de connaissances et d'intelligence et de bon sens, et je me dis que parler de droite décomplexée, ben oui, il faut quand même être sacrément décomplexé pour dire des conneries comme ça, parce que moins d'ISF et plus d'idées, plus de SDF, je suis écœuré, tu vois. J'écoute souvent l'émission et j'ai jamais entendu des choses. C'est navrant, et je me dis que les gens qui font grève en ce moment, ben, ils ont bien raison, parce que si on n'avait pas le service public pour descendre dans la rue de temps en temps et manifester et faire un petit peu contrepoids aux décisions qui sont prises un peu plus haut par nos élites élues, hein, qui jouent au comptable avec un déficit ou un autre, et qui essaient de limiter finalement à un seul chiffre plutôt qu'à deux, ben, je me dis que si ces gens-là n'étaient pas là pour défendre tout le monde, où est-ce qu'on en serait, nous, dans le privé? Parce que c'est là que je travaille. Je suis écœuré, mais bon, qu'on se rassure, je continuerai à écouter France Inter, et surtout là-bas si j'y suis. Merci.
Je voulais dire que il y a vraiment très très peu de gens qui sont cons à droite, parce que vous êtes obligés de les inventer. Tandis que effectivement, vous n'avez qu'à tendre vos micros dans une manif de gauche, et écouter une partie des messages du répondeur, et effectivement vous entendrez des slogans aussi débiles, sauf qu'ils sont de gauche et d'extrême gauche. Voilà, mais à droite il faut les inventer. Merci.
Salut Daniel, salut Christophe. Je pense qu'on ne te salue pas assez non plus, hein, monsieur Christophe Imbert, le responsable du répondeur. C'est Arthur, 21 ans de Paris. Ça va pas très bien en ce moment dans ma vie, mais bon, ça c'est personnel. Mais je voulais te remercier pour la diffusion de cet après-midi de ce superbe reportage sur la manif de droite, qui m'a mis de bonne humeur, parce que j'ai trouvé ça tellement rigolo, tellement... Est-ce qu'ils se prennent au sérieux, ces gens-là, ou pas? C'est la question que j'arrête pas de me poser. Enfin bref, ça m'a fait beaucoup sourire tout du long, et je pense que je vais être de bonne humeur jusqu'à la fin de la journée. Alors, je te remercie beaucoup, et puis à très vite, continuez comme ça, bon courage, salut.
Oh, super ton émission, là, j'ai rigolé tout le long. J'étais en bagnole, j'ai presque failli me planter, les gens, je me suis marré. Ils ont juste oublié un slogan, ramasser les cacas sur les trottoirs, les cacatiens. Et puis ils ont oublié que, ma foi, leur idole, il est plus trop marié, je crois. Puis ça lui est arrivé une fois ou deux, enfin je sais pas, enfin bon. Allez, c'est Titi de Grosvol. Ciao.
Bonjour, on est vendredi 16, je suis en train d'écouter l'émission là. Je trouve ça excellent. C'est un pur bijou. C'est une merveille. En tout cas, moi, je le prends, voilà, ça me fait rire. Je sais pas si c'est une blague, si c'est des acteurs, mais je trouve ça excellent. Voilà, une bonne continuation et merci beaucoup.
Reviens, tu paieras moins, Johnny. Reviens, tu paieras moins.
Et ben, rebolote, ça a marché à nouveau, comme au mois de juin. La manif de droite a produit les mêmes effets dans le répondeur de là-bas si j'y suis. Ceux qui ont marché à fond, qui ont cru, ceux qui se sont demandé si c'était du lard ou du cochon, et ceux qui se sont marrés pendant une heure, et même ceux qui ont trouvé qu'il fallait, comme la droite est moins con que la gauche, et ben, il fallait inventer des slogans, alors qu'il suffit de traîner un micro dans une manif de gauche pour ramasser une quantité d'imbécilité. Ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que pendant que nous étions en Colombie, là on vient de rentrer de Bogota, on a le sentiment d'avoir un petit peu loupé quelques épisodes quand même de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en France ces jours derniers. Mais on est consolé parce que l'équipe de là-bas, si j'y suis, n'a pas cessé de travailler, notamment Pascal Pascariello, qui a participé journalistiquement à la manif de mercredi dernier avec son micro. Elle a laissé traîner son micro dans la manif et elle est tombée sur une jeune femme de 23 ans, Kaina, avec laquelle on va passer à peu près cette heure entière. Voilà, une fille dans la manif et qui explique plus de choses sur l'époque, sur ce pays, peut-être sur la profondeur de ce pays. Dans une manif, il n'y a pas que la manif, bien évidemment. Dans les revendications, il n'y a pas que les revendications, il y a beaucoup d'autres choses qui apparaissent, qui transparaissent. Et il suffit de tendre son micro avec suffisamment de patience. Et ça me permettra peut-être, moi qui étais absent, de comprendre ce dessin que je découvre aujourd'hui dans le quotidien Le Monde. Un dessin assez surprenant qui représente un monstre, une figure tout à fait monstrueuse et hideuse. Et quand on s'approche, un peu comme dans les dessins d'Archimboldo, on voit que cette figure monstrueuse est composée d'un tas de personnages qui sont en train de manifester avec des yeux hagards et assez abrutis en effet, et nage sur cette foule bien des banderoles qui indiquent Sud, LCR, FO, CGT. Et je me demande pourquoi, quel est le sens de ce dessin, à moins que ce soit là aussi du deuxième ou du troisième degré, ce dessin qui représente en somme ceux qui manifestent ou sous la figure globale d'une entité monstrueuse, désagréable, pour tout dire destructrice et avide d'on ne sait quoi. Devant, il y a des pavés, et peut-être que si on regarde bien sous les pavés, on découvre une plage nouvelle. Mais en tout cas, je ne comprends pas bien le sens de ce dessin qui m'a l'air très remonté contre ceux qui manifestent ces jours derniers, qui se mobilisent. Voilà pourquoi on va passer cette heure ensemble pour essayer de comprendre. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Monsieur Mermet, je voulais vous remercier pour ce grand moment d'émotion et de partage, un vrai grand moment de communion, pour tout dire, en direct de la manifestation, là, jeudi. Entendre toutes ces voix puissantes, tremblantes, de conviction, ces slogans si justes et profonds, pas d'alloc pour les dreadlocks, ouais, tous tout seuls, c'était avoir su si bien transcrire nos propres aspirations, c'était beau, c'était fort. Et c'est bien le début d'une ère nouvelle. Enfin, la voilà, la relève. Bravo à elle, bravo à notre jeunesse. C'est magnifique. L'émotion m'étreint. Vive la France. Et aussi, je suis sûre que Pierre Dac en rigole encore dans sa tombe. Allez, voilà, c'était Sylvie, chômeuse mais repentie, et mère au foyer tout de même à Montpellier. Salut les otages. Salut Daniel.
Bonjour à tous. Il y a 6 ans à Gênes, des centaines de milliers de personnes manifestaient contre le G8. Souvenez-vous, un jeune garçon, Carlo Giuliani, a laissé sa vie. D'autres se souviendront toujours des violences qu'ils ont subies de la part des forces qui se disent de l'ordre ou qu'ils ont simplement vues. Depuis, les procès se succèdent. Et alors que les policiers sont systématiquement blanchis, voire promus et médaillés, les manifestants sont sous le coup de menaces de peines lourdes pour saccage ou insubordination. Ils risquent entre 6 et 16 ans parfois de prison. Pour dire à ceux-là et à d'autres que nous n'oublions pas, que nous réclamerons encore et toujours justice et vérité, une manifestation aura lieu demain 17 à Gênes. Nous appelons également à un rassemblement demain devant l'ambassade d'Italie à Paris, 51 rue de Varennes, à 13h, demain samedi 17, à Paris. Venez nombreux. À bientôt.
Sur la reconduction des piquets de grève. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Ok, donc.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, j'y suis avec Pascal, Pascal Yellowy, Renaud Lambert, tous les pas foutus, Kaina est dans la rue.
Ce que vont devenir les retraites, des minimums sociaux qui permettront à peine de ne pas crever de faim.
Alors, là, vous portez une banderole qui dit « Ensemble pour nos retraites ». et il y a écrit non fonds de pension, privatisation. C'est quoi le rapport entre la défense des retraites et les fonds de pension?
Bah écoutez, très concrètement, moi je travaille à EDF, hein, donc on fait partie des régimes spéciaux qui sont attaqués par Sarkozy. Et dès qu'il y a eu l'annonce donc des décrets cadres fixant la réforme des régimes spéciaux, la direction d'entreprise a annoncé l'ouverture de négociations pour mettre en place une retraite complémentaire sur la base de fonds de pension, c'est-à-dire sur la base de l'épargne salariale par capitalisation. Donc le lien, il est direct. Et en fait, globalement, ce qu'on s'est rendu compte depuis la réforme Balladur, hein, la première attaque contre le régime de retraite en France, ensuite la réforme Fillon et puis maintenant la réforme des régimes spéciaux, c'est que ce qui est visé surtout, c'est pas tant l'équilibre des caisses de retraite, parce que ça, on pourrait trouver l'argent, c'est surtout remettre en cause ce système solidaire des retraites par répartition pour laisser la place aux retraites complémentaires par capitalisation. C'est la logique où on oppose la logique de la solidarité et des budgets sociaux qu'on connaissait, depuis la libération, voire même avant, à la logique libérale de financiarisation, d'assurance privée, d'assurance particulière. C'est la même chose sur l'assurance maladie. On voit bien que à chaque désengagement de la sécurité sociale correspond une offensive des banques, des assurances, etc., pour proposer de nouveaux produits assurantiels sur le champ de la santé. Donc c'est des budgets énormes, ça représente effectivement des marchés colossaux. Le budget de la Sécu, il est plus important que le budget de l'État. Pour les puissances d'argent, ça représente effectivement des sources de profit potentielles colossales. Donc on voit bien que le bras de fer, il est en train de se jouer là-dessus, c'est-à-dire entre deux conceptions de société, quoi, une société de solidarité et puis une société libérale où son compte de l'argent se protège, s'assure, et ceux qu'on n'ont pas se débrouillent, quoi, avec les minimums sociaux qui leur seront concédés, quoi.
Maintien des régimes spéciaux, c'est tout ensemble dans l'unité.
C'est la mise en opposition des régimes spéciaux avec l'ensemble des autres salariés. On représente 5% des salariés. Effectivement, on n'est pas l'ensemble du monde du travail. Et ce que Sarkozy espère, c'est que l'opinion publique se retourne contre effectivement ces corporations qui défendent ces acquis sociaux pour essayer de les plier. Bon, comme par hasard, c'est ces corporations qui sont encore les plus organisées syndicalement et qui ont encore le plus de capacité de nuisance en termes d'intervention dans les grèves. Bon, donc on sent bien que là, pour Sarkozy, c'est une épreuve de force qui derrière doit lui permettre ensuite de s'attaquer à l'ensemble des régimes de retraite. On nous parle d'un allongement des cotisations à 41 ans pour tout le monde à partir de 2008. On nous parle aussi d'une réforme de fond du Code du travail. On nous parle de la remise en cause des 35 heures, etc. On nous parle d'une nouvelle réforme de la sécurité sociale. Donc ce qui est en jeu, en fait, c'est le rapport de force global entre d'un côté le gouvernement et puis les employeurs, le patronat, les actionnaires, etc.
Le capital.
Et puis, le capital, oui. Et puis les salariés de l'autre.
Le travail.
Le travail, oui. Et bon, on sait qu'on est sur la défensive depuis maintenant, grosso modo, 20 ans, 30 ans. Enfin, je veux dire, depuis qu'il y a cette offensive, cette contre-offensive libérale, hein, ces contre-réformes successives, casse des services publics, remise en cause des budgets sociaux, etc. Moi, je fais un peu le parallèle avec ce qu'a fait Thatcher avec les mineurs, pour ensuite restructurer en profondeur la société anglaise. Et aujourd'hui, quand on va à Londres, il n'est pas rare de trouver un londonien de 70 ans en train de balayer dans le métro, quoi.
Voilà, c'était dans la manif du 14 novembre, des propos qui posent assez bien, nous semble-t-il, les enjeux, l'enjeu qui n'est pas nouveau, comme le dit ce monsieur qui manifeste, deux conceptions de société s'opposent, la conception d'une société solidaire et la conception d'une société qui n'est plus tout à fait une société, mais où règne la loi du marché. On peut tout à fait être en Colombie, en Pantage, avoir loupé ces jours derniers et comprendre de quoi il s'agit. Quel lien y a-t-il entre ce qui vient d'être dit et l'université, et ce que disent et ce que veulent les étudiants qui se mobilisent et qui bloquent les universités? On va essayer de le comprendre aujourd'hui avec une autre personne qui manifestait dans ce jour-là et qui a rencontré Pascal Le Pascariello. C'était quelques rangs plus loin dans la manif. Il y a toujours, on oppose bien sûr toujours le monde du travail et le monde étudiant. C'est une vieille coutume, mais une vieille coutume française. On va voir ce qui rapproche et ce qui différencie ces contestataires et ces contestations. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, tout n'est pas foutu. Kaina est dans la rue.
Girdim la kas gidecev mi diva kera Dikkatça yapıt mangama mi de Lago mu dici mi de Kas giva girdim la kas gidecev mi diva kera Dikkatça yapıt mangama mi de Lago mu dici mi de Kil tuça yıfansa su girese tu damasa Abayça
en tant qu'étudiante avec la défense des retraites, parce qu'on a conscience que c'est en luttant tous ensemble sur cette question qu'on pourra éventuellement obtenir satisfaction. J'ai 23 ans, je suis à la fac de Nanterre.
Et qu'est-ce que tu étudies?
Je suis en master 2 de lettres classiques. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable en fait sur les places boursières, les lettres classiques, mais ouais, c'est par esprit de contradiction. C'est pas l'heure de militer, ben, je milite, hein. C'est pas l'heure de faire des lettres classiques ou des choses pas rentables, j'en fais. On a encore la possibilité de pouvoir étudier ce qui nous plaît, mais bon, ça, c'est de plus en plus compromis et le projet de loi Pécresse remet en cause le fait qu'on puisse étudier quelque chose juste pour le plaisir d'étudier et puis pour pouvoir nous permettre d'avoir un métier dans la culture. Parce que si je fais des études, c'est aussi pour pouvoir avoir un boulot quand même. Et j'aspire à avoir un boulot dans la culture. Mais le problème, c'est que c'est de moins en moins possible, parce que la culture en général n'est plus financée en fait par l'État. On considère que ça relève du loisir et que c'est à nos fonds privés de devoir financer nos loisirs, comme disait Sarkozy, notamment par rapport au latin et au grec.
Ah ben, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de monter le montage. Oui, ben, oui, ben, il faut bien monter un entretien, une interview, quelqu'un qu'on rencontre comme ça. Ben, avec Kaina, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'elle a la langue bien tendue, elle ne s'arrête pas et elle a beaucoup de choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire et on a les jours derniers, dans les numéros récents de la Bastille-Justy, on est revenu sur des échos des manifs que nous avons décrites et photographiées avec nos micros ces dernières années, même ces dernières décennies, et on a essayé évidemment à chaque fois de trouver le discours, le personnage, ceux qui disent quelque chose sur, au-delà de la manif, au-delà du conflit, sur l'époque, sur la société. Il nous semble aujourd'hui que Kaïna est celle, il nous semble, on verra après le temps si nous donne tort ou raison, dit beaucoup de choses sur notre époque, dit beaucoup de choses sur notre aujourd'hui. En tous les cas, elle fait partie de ces personnages qui sortent de ces moments qui sont des moments évidemment d'inquiétude, puisque ce sont des moments de conflit, mais qui sont aussi des moments de jubilation, qui sont des moments de fête ou de brouillonnement culturel aussi, c'est vrai, mais culturel en tout cas, et politique essentiellement. Kaïna.
Alors justement, explique-moi cette fameuse loi Pécresse. Cette loi, dans l'ordre, on accroît le pouvoir du président de l'université à ouvrir l'université, le budget universitaire, à des financements privés, à des entreprises qui viendraient, par l'intermédiaire de mécénats et de fondations, financer les universités. Le danger, dans ce genre de situation, c'est que pour pouvoir obtenir des financements, il faut de un cadrer avec la politique de l'entreprise, puisque l'entreprise ne va pas financer pour le simple plaisir de par philanthropie, ne va pas financer les universités. Et le problème, c'est qu'il y a un désengagement massif de l'État où la dépendance du service public d'enseignement supérieur sera remis en cause. Donc,
ça veut dire que demain, par exemple, dans quelques années, LVMH pourra avoir des parts dans une université.
Tout à fait. Ils pourront venir financer des universités et quelque part, même pas quelque part, et orienter la politique scientifique de l'université et faire en sorte que les enseignements qui seront dispensés dans les maîtrises, les licences, qui vont créer de quelque part de manière indirecte, les arrangent et puis orienter par là les études qu'on va faire.
Alors si demain LVMH investit à Nanterre, bon, ce sera un mauvais choix à mon avis pour LVMH, mais comment tu imagines Nanterre avec LVMH ?
Ils ont besoin voilà d'une maîtrise en gestion de relations publiques, en commerce extérieur. Donc il y aura une superbe UFR de gestion des entreprises et commerce extérieur avec des beaux bâtiments et puis une sélection des étudiants qui devront étudier la manière dont on devra établir le commerce extérieur ou bien les relations chargées de clientèle pour LVMH. Bon, le bâtiment d'économie avec une orientation qui arrange la politique économique d'LVMH sera à mon avis dans le superbe état. Les frais d'inscription et la concurrence entre les étudiants sera la jungle, parce que ça sera les meilleurs étudiants, ceux qui auront le plus les moyens de pouvoir être les meilleurs étudiants qui s'en sortiront. Et puis à mon avis, le département de philosophie, il y a peu de chances d'exister. Le département de lettres classiques, il y a peu de chances d'exister. Ça sera la fac de Nanterre, il y aura bâtiment de droit qui aura de grandes chances d'exister. Et encore, c'est même pas forcément vrai, parce que comme on ouvre la concurrence, l'université sera en concurrence avec des écoles privées ou des écoles de commerce ou les écoles de Sciences Po qui eux aussi auront la possibilité de délivrer des diplômes de droit. Eux aussi sont en concurrence, en danger. C'est ce qu'on explique aux étudiants en droit qui nous disent nous de toute façon on sera toujours financé, on aura toujours besoin de juristes. Non, c'est pas forcément vrai. Et même si on a toujours besoin de juristes, quels juristes on aura besoin? Quels économistes? Quels sociologues? Quels littéraires? C'est ça le problème qu'il faut se poser. Je pense même pas que la philosophie disparaîtra. Je pense pas que ça disparaîtra vraiment. Ça sera le contenu des enseignements qui changera. La recherche fondamentale sera plus du tout à l'ordre du jour. Ça sera de la recherche appliquée à des domaines bien spécifiques en fonction des demandes de ceux qui financeront. Et on parle du privé, mais des collectivités territoriales. Si eux, ils ont envie d'être bien avec le monde économique et qui les entoure, ils pourront aussi influer sur le contenu des enseignements. Tout ça, ce sera de manière indirecte. Ça ne sera pas frontal. De toute façon, on n'a jamais d'attaque frontale dans ces cas-là. Mais de manière indirecte, c'est ça qui risque de se passer. Et les frais d'inscription, si les petites universités qui n'ont pas un rayonnement énorme ou les entreprises ne voudront pas forcément investir, là, par contre, ça sera le danger et que la hausse des frais d'inscription, elle sera notoire, puisque le président de l'université aura la charge de trouver les financements pour pouvoir faire tourner son université. Et c'est ça le problème qui se pose à ce moment-là. Ce qu'on est en train train d'essayer de faire, c'est de séparer l'enseignement de la recherche. Donc créer des universités, elles, c'est-à-dire qui s'occupent que des licences, donc des gros lycées en quelque sorte, et des universités où la recherche existera encore. À ce moment-là, on aura des facs à deux vitesses. Des facs où il y aura de la recherche et des facs qui seront des gros lycées. Et les classes populaires qui arrivaient encore à avoir accès un minimum à l'université, c'est un parcours du combattant quand on est issu des classes populaires pour pouvoir avoir accès à des études décentes et à de bonnes universités. Mais ils se retrouveront dans ces gros lycées et à l'issue du L, on les orientera dans des voies professionnelles immédiatement. À part que la professionnalisation, c'est pas l'université. L'université, elle n'est pas là pour répondre à la demande strictement des entreprises. Elle est aussi là pour former des étudiants, pour former des futurs citoyens avec un esprit critique et une ouverture sur le monde. Et c'est absolument pas ça qui est en train de se passer. On est en train de former des clones qui seront prêts à la chair à patron, qui seront prêts à rentrer tout droit dans les entreprises s'ils rentrent, s'ils trouvent du travail, et absolument pas à former des étudiants amenés à réfléchir, à poser des questions sur le monde. On peut croire que je suis romantique en disant quelque chose comme ça, mais j'imagine encore qu'on puisse aspirer à une université où ça soit quand même un lieu de savoir, d'échange et de culture, et pas exclusivement un lieu de transit entre le lycée et l'entreprise.
Mon transport du bas du marchandis est en honneur de combat des entreprises. Une privatisation contient la maladie qui donne la vie. Vincent, les réseaux spéciaux, c'est tout.
Let me know. Should I stay or should I go? If you say that you were mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, baby. Should I stay or should I go? Always this. You have me when I'm on my knees. One day you find next is life. So if you want me, hold your back. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go?
Comme dame de cantine dans une cantine. Enfin, je suis pas de région parisienne, moi je viens du Nord-Pas-de-Calais. Bon, mine de rien, même si je vivais à Lille, quand j'étais à la fac à Lille, j'ai fait ma licence là-bas, et même si le coût de la vie est un petit peu moins élevé, ça reste assez cher pour n'importe quel étudiant qui a pas de parents derrière, parce que moi mes parents ne peuvent absolument pas financer mes études. J'ai encore deux petits frères derrière, ils sont encore à l'école, donc
tu fais comment là?
Eh ben, c'est la question que je me pose tous les matins. Comment je vais faire aujourd'hui? Non, bah, je fais comment? Bah, je me débrouille, je bosse à côté, je travaille. L'année dernière, je travaillais 15 heures par semaine en même temps que ma maîtrise.
C'est quoi comme boulot que tu fais?
Quand je suis arrivée, comme je connaissais pas encore le coin, j'avais pas d'appart, rien, donc j'ai commencé d'abord par squatter à droite à gauche avant de pouvoir trouver une colocation. Et je gardais des enfants comble du comble à Neuilly-sur-Seine. Et voilà, je gardais des gamins, je donne des cours. On gagne pas sa vie avec ça.
Combien tu as de budget par mois?
Ouais, alors j'ai un loyer de 400 euros. Donc, j'avais un loyer parce que là maintenant j'ai dû quitter mon appartement. Maintenant je suis retournée en situation de squat.
Pourquoi t'as dû quitter ton appartement?
Parce que j'avais plus les moyens de payer. Parce qu'une fois que j'avais payé, on a 400 euros de bourse. Moi je suis boursière, j'ai 400 euros de bourse.
Et tes petits boulots, ça représentait, ça pouvait t'apporter combien d'argent par mois en plus?
Ça me rapportait à peu près 150-200 euros par mois. une fois que mon loyer est payé, enfin j'ai un loyer de 400, après il y a encore voilà, l'électricité, tous ces trucs-là auxquels on pense pas, parce qu'il n'y a pas que le loyer. Et une fois que toutes mes charges sont payées, c'est la carte orange, parce que je suis à Nanterre et que j'habite à Montreuil, une fois que tout ça est payé, il me restait 50 euros par mois. Donc pour manger, des trucs comme ça. Alors manger le midi à la fac, c'est pas toujours possible. Aller au ciné par exemple, aller dans des expos, acheter des bouquins, normal, on a besoin de bouquins sur lesquels travailler. Le bouquin le moins cher, il était à 40 euros quoi. Donc des stylos, des cahiers, enfin des trucs auxquels il faut penser et c'est pas toujours évident quoi.
Du coup, t'encourages, j'imagine, à poursuivre tes études le plus longtemps possible.
J'ai envie de dire oui, ils m'encouragent. Dans l'absolu, bien sûr qu'ils m'encouragent, mais en réalité, dans les faits, ils s'inquiètent beaucoup pour moi. Si j'étais dans une filière à déboucher, il y a encore les suppressions de postes qui vont tomber à la grègue en classique, ça va être catastrophique, quoi. Ils s'inquiètent beaucoup, ils sont contents que je fasse des études. Mon père a fait des études aussi au niveau capital culturel dans ma famille, c'est allé, c'est capital économique et social qui allait pas.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai pas mal mes oncles et mes tantes, tous les deux pères sont pas mal de profs, donc du coup, j'ai une culture de l'école qui m'a été transmise. Mais donc du coup, mon père, c'est qu'il m'encourage à continuer mes études le plus longtemps possible, parce que par chez moi, l'intégration, l'ascenseur social, elle se fait par l'école, elle se fait pas par autre chose, quoi. Et c'est une région qui est complètement dévastée, quoi. Il y a des usines, il y en a quasiment plus, les boîtes, elles ferment à tour de bras. Donc on nous encourage à faire des études, parce qu'on nous a expliqué, comptez pas sur les relations de papa, hein. C'est pas comme ça que vous allez avoir du boulot. La boîte à papa, elle n'existe pas. Si, elle s'appelle la NPE, mais bon, il n'y a pas trop de taf en ce moment. Donc,
ton père, il faisait quoi? Il exerce quel métier?
Il a été comptable, il a commencé comptable et il bossait. En fait, il bossait à Londres avant. Et quand il s'est marié avec ma mère qui venait d'Algérie, elle avait 20 ans. Elle est déjà arrivée en France, c'était quand même la grande aventure. Aller tout de suite en Angleterre, c'était pas possible. Et donc du coup, il est revenu en France et il a travaillé comme comptable en comptabilité salariale. Et il a été le champion du monde du licenciement économique. Et après, il avait retrouvé du travail en Angleterre. On voyait plus mon père et puis nos résultats scolaires sont bien chutés. Et mon père, il n'a pas supporté. Donc du coup, il est rentré en France et il est tombé au chômage. Et puis il s'est occupé de notre éducation pour que nous, au moins, on puisse avoir un avenir, quoi. C'est pour ça que je lâche pas mes études. C'est que ce serait insulter l'acte de courage qui a été celui de mon père que cracher sur les études. Donc même si c'est difficile, même si j'ai pas les moyens, même si je dois bosser à côté et de temps en temps être un peu ric-rac, c'est pas grave, quoi. Enfin, si c'est grave. Dans l'absolu, c'est grave aussi, de point de vue général, mais en ce qui concerne mon cas personnel, je lâcherai jamais mes études pour des questions économiques. C'est beau une manif. Moi je trouve ça beau une manif. Ça fait plaisir, quoi. Même si ça dure pas longtemps, mais pendant 2 heures, 3 heures, on est tous ensemble à dire voilà, on n'est pas d'accord, on est ensemble et on le dit, quoi. Et puis il y a des couleurs. C'est vrai que c'est là, les cortèges de solidaires, ils sont jolis, c'est à plein de couleurs. Enfin, moi ça m'émeut toujours qu'on soit tous là ensemble. Là. Et voilà quoi, voir les gens, des gens. Et parler avec des salariés d'une entreprise qui n'ont pas forcément le temps. On n'est pas tout seul. C'est ça qui est important, c'est de se dire, putain, on n'est pas tout seul. Et rien que se parler, quoi. Rien que se parler, déjà, c'est déjà un effort de fait et puis ça rapproche un peu.
Une fille dans la foule, ça pourrait s'appeler cette heure que passons avec Kaina, 23 ans, étudiante à Nanterre, père chômeur, mère cantinière, née dans le Pas-de-Calais, deux petits frères, un budget mensuel de 400 euros de bourse, et avec ses petits boulots, elle arrive à se faire 200 euros, tout ça, ça... Il n'y a pas de quoi s'engraisser beaucoup, mais elle manifeste parce qu'elle tient à ses études, elle tient à faire des études. Et là, une conception de tout ça qui a été donné au tout début de cette heure par ce salarié de l'EDF qui a bien posé la question qui se pose à nous tous, et depuis pas mal d'années, un choix de société. On est en présence d'un choix de société ou la solidarité ou le marché. C'est gros, c'est simplifié que de dire ça, mais ça revient à ça. Et ça passe évidemment par l'université. Souvenez-vous, si vous avez bonne mémoire, de reportage que nous avions fait au Texas, à Houston, au moment de l'affaire Enron. Eh bien, on était allé jusqu'à Austin, une ville importante du Texas, pour montrer l'université de Austin, où en entrant dans cette université, il y avait un tableau lumineux indiquant les cours de la bourse des entreprises qui finançaient les études et les étudiants. Et parmi ces entreprises, il y avait Enron. C'était évidemment après la faillite frauduleuse, honteuse, une des plus grosses faillite de l'histoire, et en tourloupe bien évidemment, eh bien cette Enron finançait ses étudiants qui étaient, il y avait les étudiants Enron, il y avait les étudiants Exxon, les étudiants Walmart, que sais-je encore, chacun faisant ce que étant promis à ce que disait Kaina à l'instant, être de la chair à patron, c'est-à-dire des entreprises, des grandes entreprises qui financent pour fabriquer les élites et les cadres nécessaires à leur reproduction. Tout ce que l'on dit là n'est pas nouveau, mais sauf que ça fait évidemment un peu drôle de l'entendre, et ça fait du bien, pour tout dire, dans la bouche d'une jeune femme comme Kaina.
Chez Kaina, chez Cheminot, ils sont hyper remontés aussi, notamment contre les négociations qui sont en train de se faire en sous-main avec les directions, la direction de la CGT notamment. Ils veulent négocier boîte par boîte, quoi, dépôt par dépôt. Ils vont créer la division en faisant ça, ils vont rien gagner en faisant ça. Et les grévistes, eux, ils en sont conscients. Mais s'ils lâchent sur le régime des retraites, en tout cas, c'est ce que disent les militants de Sudrail, avec lesquels j'ai parlé, et des grévistes qui ne sont pas syndiqués, avec qui j'ai discuté, c'est que s'ils lâchent sur les régimes spéciaux, et ça ouvre la porte à toute la casse du service public, tous leurs droits. Dans la G où j'étais, à Austerlitz, ils ont voté à l'unanimité la reconstruction de la Grèce, ça faisait aucun doute et aucun détail. Ça fait plaisir.
Ouais, je t'ai déjà vu. Moi, je suis cheminot.
T'es cheminot?
Ouais, voilà. Je suis juste venu dire bonjour aux jeunes, là, pour les encourager. Pour les encourager, ils ont raison. C'est légitime qu'ils soient là. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on subit tous des attaques à différents niveaux. On s'organise chacun de notre côté. Et finalement, on a des convergences de lutte. Donc, autant les rassembler et lutter ensemble.
Qu'est-ce que t'en penses, hein, Kaina?
Ah voilà, une grève de salariés, une grève d'étudiants, c'est pas exactement la même chose, quoi. Nous, même si pour nous, c'est compliqué, on bloque les cours. Donc, les cheminots et les salariés en général, ils sacrifient des journées de salaire, quoi. À chaque jour où ils sont en grève, ils sont pas payés, les mecs. Et donc, du coup, c'est assez compliqué. Parce que c'est courageux, surtout des gens qui ont des familles, qui ont une vie à financer. Parce que c'est de plus en plus dur maintenant de faire grève. C'est pas pour rien, le pouvoir d'achat est de plus en plus faible. Une journée de travail, c'est quand même quelque chose dans le budget. Et partir en reconductible comme ça, moi, je suis admirative, forcément, quoi. Il y a aussi la journée du vin, de la fonction publique, et il y a une volonté aussi d'essayer de tenir jusqu'au 20 pour pouvoir faire converger la question des régimes spéciaux, la fonction publique, la casse du service public, et les étudiants qui sont en grève aussi sur pas mal de facs. Il y a 13 facs bloquées là actuellement. Depuis ce matin, il y a 13 facs bloquées sur 87, une vingtaine de facs en mouvement. Il y a tout un tas de moyens. Le blocage, c'est un moyen d'action. C'est pas l'action en soi, c'est pas l'essence de la grève qui est en train d'être menée. Mais c'est le seul moyen d'action qui vaille, à mon sens, parce que faut libérer les étudiants de l'obligation d'aller en cours. Et donc, du coup, pour que tous les étudiants soient sur un même pied d'égalité, pour que tous puissent lutter, on doit bloquer les universités, on doit bloquer l'accès aux cours, et puis à former aussi. Parce qu'une fois que l'université est bloquée, sur les barrages, il y a des étudiants en lutte qui sont là pour accueillir les étudiants qui arrivent et leur expliquer ce qui est en train de se passer. Ça a permis de ne pas rendre opaque la lutte et pas faire surtout un mouvement de militants, quoi. Parce que là, la LRU, ça touche tout le monde. Les personnels vont être précarisés puisqu'il y aura une remise en cause de leur statut titulaire. On embauchera à tour de bras des contractuels et ça remettra en cause le statut de la fonction publique, qui est les titulaires administratifs, les enseignants aussi, parce qu'on pourra recruter des enseignants en CDI et puis jouer aussi sur les salaires et créer une concurrence entre les enseignants. Donc ça concerne tout le monde là.
Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation, vous êtes en train un petit peu de le rendre triste en ce moment. Parce qu'il a dit qu'il trouvait ça quand même dommage de voir des jeunes penser comme des vieux.
les jeunes penser comme des vieux. Moi personnellement, je suis pas pour mettre les générations en concurrence. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose de jeune ou quelque chose de vieux que de revendiquer mes droits, de me battre pour conserver les acquis qu'on a et puis essayer d'en gagner de nouveaux. Si c'est penser comme des vieux, bah ok, d'accord, je suis vieille. Et je me bats avant tout pour moi, je me bats pour mon avenir. J'ai juste conscience que mon destin social, on va dire, est aussi conditionné par celui des autres. Après tout, eux aussi, ils ont compris l'action collective. Le gouvernement et le MEDEF, ils sont main dans la main pour démanteler les services publics, pour privatiser nos facs et pour nous faire croire que les privilégiés, c'est les cheminots. Au même moment où Sarkozy, il augmente son salaire de 140%. Quoi. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Et il est d'un cynisme. Enfin, ce gouvernement est d'un cynisme. Mais j'espère que vraiment, ça va leur éclater à la gueule, mais de manière massive et puis de manière collective. Votre creux n'a pas d'oreille. Si on a... Moi, l'année dernière, par exemple, vraiment, j'avais galéré pendant plusieurs mois, mais vraiment sévèrement.
Ça veut dire quoi, galérer pendant plusieurs mois, vraiment sévèrement?
Ah, pour moi, galérer, ça veut dire manger un jour sur deux. La fois où tu manges, bah, tu manges pas super correctement. Ça fait un an et demi que je prends encore dans une boucherie. Voilà, bah, la viande, j'ai oublié. Enfin, il y a des trucs, voilà, on est obligé de rogner dessus, quoi, parce que sinon, bah, voilà, je peux pas acheter mes bouquins. Voilà, il y a des moments, bah, je faisais ma maîtrise l'année dernière, mais ça a été super difficile à des moments parce que j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à me concentrer, parce que j'étais en permanence en train de me dire, là j'ai réussi à trouver de quoi, mais maintenant faut penser à demain, quoi, tous les matins se réveiller en se disant, mais comment je vais faire demain? Voilà, on n'arrive pas à travailler, à se concentrer dans ces conditions-là. Globalement, on est la première génération qui vit vraiment bien que ses parents. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est jamais vu, quoi. Même si c'est, enfin, je sais pas à quand il faut remonter pour voir ça. Et on n'est pas encore en situation de, enfin, si on est en situation, sur une guerre, de guerre sociale, mais c'est la lutte tous les jours pour pouvoir faire des choses basiques. Vraiment manger, acheter des livres, se cultiver, enfin, c'est de faire des trucs simples, quoi. Enfin, même ça devient le parcours du combattant. Et quand on est étudiant, à plus forte raison, quoi, ça devient quasi impossible. Quoi. C'est ça qui est emmerdant en fin de compte, c'est que des fois on rencontre des militants et ils prennent un peu pour leur direction, quoi. En gros, c'est comme des fois quand on rencontre des gens de l'UNEF, la direction de l'UNEF elle est un peu pourrie quand même. Julliard qui va les bouffer avec Pécresse pour les négocier sur la loi en disant que de toute façon ça sert à rien de demander l'abrogation, on l'aura jamais. Mais si on va pas la chercher, c'est pas Pécresse qui va nous la servir sur un plateau. Mais les militants, ils sont de bonne foi, ils sont là, ils se battent pour peut pas tout mettre dans le même panier. La CGT, c'est pareil, quoi. La direction de la CGT, là, qui est en train de négocier, enfin, demander à ces négociations boîte par boîte, et à dire que de toute façon, la réforme des régimes spéciaux, on n'y coupera pas. Moi, je pense, dans ces cas-là, je pense aux militants, quoi. Parce que ceux que j'ai rencontrés à l'AG, c'est le mec qui m'a dit, ben ouais, on est dans la même galère, faut qu'on y aille, on rogne pas sur nos revendications. Et voilà, quoi. Donc, du coup, des fois, on est contre le discours de certains représentants et le militant qui bouge dans sa boîte, le syndicaliste ou syndiqué, tout simplement. Bah, des fois, il y a un monde, quoi. Il y a tout un monde.
Du 14 novembre, on va finir avec Kaina, cette jeune femme de 23 ans, rencontrée dans la foule, et qui analyse la situation, qui raconte sa vie, sa façon de voir les choses, et qui est une prolongation d'une histoire très ancienne, qui est effectivement l'histoire de la lutte sociale en France.
Voilà, mais c'est de la provocation, quoi. Faut autant de cartes de CRS. Là, c'est même.
Il y a combien de cartes de CRS?
Là, il y en a. Attends, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Putain, on a 12. Et ils bloquent l'accès au pont. C'est le pont de Gaulle, là, je crois. Et là, tu vois, si tu regardes. Là-bas, tout droit, il y a le siège de la SNCF, là-bas.
Là, il y a le pont qui est complètement bloqué par 12 voitures de CRS. Ouais, et tu me montrais du doigt un peu plus loin derrière.
C'est le siège de la SNCF, en fait. Bah, il me semble, hein. Faut demander à... C'est le siège de la SNCF, là-bas?
Non, c'est la RATP, juste derrière.
Ah, c'est la RATP derrière, c'est pour ça que vous êtes, en fait.
En fait, le siège, il est juste à côté de l'horloge. Côté, attends, vous voyez l'horloge, là-bas?
Ouais.
Bah, juste à droite, il y a la maison de la RATP.
Ça, vous voulez passer, quoi, du coup.
Ah, ça aurait été bien, mais on n'a pas eu l'aval en fait pour pouvoir passer le pont. Normalement, au début, on devait finir là-bas.
C'est le parcours qui a été déposé de la manif, voilà. Il devait finir là-bas.
Bah, c'est ça. Ça aurait été plus symbolique. Mais bah, bon, c'est pas grave, si on peut pas aujourd'hui, on ira demain.
On ira demain.
Voilà, on ira demain.
Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue.
Presque aussi beau que la salsa colombienne. Merci à tous. C'était un reportage de Pascal Le, Pascal Hielo et de Renaud Lambert. Merci à Kaina. Et merci à Oussam et aux étudiants en grève de Tolbiac à signaler dimanche 18 novembre à partir de 19h au Zénith de Paris un grand concert pour Ingrid Betancourt avec les Ogres de Barbac, nos copains les Ogres de Barbac, Renaud, Alain Souchon, Yuri Buenaventura et bien d'autres. Voilà ce qui préfigure un peu notre la série de reportages qu'on vous présentera sur la Colombie très prochainement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site non
officiel de la BAS qui suit, la-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Olivier Rieutor, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert et Charlotte qui s'occupent du répondeur qui attend vos messages modestes et géniaux au 01 56 40 37 37. Réclame.